against the world. Mom and dad make a brave fold, that's on against the world. Won't lie about it, ain't no life for the kid.
À Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio France Internationale, 4h en temps universel. Un nouveau journal présenté par Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Quand le changement climatique s'invite jusque dans les salles de classe.
La scolarité de 171 millions d'élèves du monde entier a été perturbée par des événements climatiques l'an dernier. C'est ce que nous apprend ce matin un rapport de l'UNICEF. On est aussi en Ukraine où là-bas c'est la guerre qui perturbe les cours. Dans les zones occupées, les Russes imposent leur vision du monde dans les manuels. C'est une revendication des manifestants anti-gouvernementaux en Serbie. Le Parlement est dissous et des élections législatives anticipées vont être organisées. Ce sera fin octobre. Dans ce journal également, la principale coalition d'opposition qui s'effondre au Japon et ce quelques mois seulement après sa création. On va parler de l'inquiétude d'Amnesty International et de l'Organisation mondiale contre la torture qui interpelle les autorités nigériennes après la disparition de notre confrère Moussa Kaka. Et puis on parlera des lunettes connectées, merveille de technologie, mais porte ouverte aux dérives. Tempêtes, inondations, vagues de chaleur, sécheresse, incendies, autant d'événements, on le sait, qui se multiplient et qui s'intensifient à cause du réchauffement de la planète. Et les élèves en font les frais partout dans le monde, nous dit ce matin un rapport de l'UNICEF. Ils sont ainsi plus de 171 millions à avoir vu leur scolarité perturbée l'an dernier à cause de tous ces aléas climatiques. Ça fait un élève sur 10 avec des rentrées retardées comme au Pakistan à cause de la mousson, des cours suspendus comme après le passage de l'ouragan Mélissa dans les Caraïbes, mais aussi des écoles tout simplement détruites comme ce fut le cas dans plusieurs pays d'Asie du Sud à cause du cyclone Monta. Tout ça, ça donne un risque accru de décrochage scolaire et les petites filles en sont les premières concernées. Igor Strauss.
Si aucun pays n'est épargné par ces perturbations scolaires, il y a de grandes disparités entre les continents. Jody Serret, responsable plaidoyer de l'UNICEF France.
Ce rapport, il nous dit aussi que les trois quarts des enfants qui sont concernés par ces bouleversements dans leur scolarité sont des enfants qui vivent dans des pays du Sud, dans des pays plutôt pauvres. Donc là aussi, c'est inquiétant. Et pour autant, les pays riches ne sont pas épargnés.
Mais ce déséquilibre entre pays n'est pas la seule inégalité relevée par ce rapport. Certains enfants sont plus touchés que d'autres par les fermetures de classe, jeudi soirée.
On sait que certains enfants qui vont être affectés par des coupures de leur scolarité plus longues ont plus de risques de ne pas retourner à l'école. Et là, souvent, il s'agit des filles. Parce qu'en fait, quand les filles ne vont pas à l'école, bien souvent, elles vont commencer à travailler, plutôt dans des tâches domestiques. Elles vont aller chercher l'eau. Et en fait, assez rapidement, la fille devient indispensable au sein de son foyer pour que ce foyer puisse continuer à fonctionner. Ou alors, c'est difficile pour les parents de nourrir tous leurs enfants. Et là, ce qui peut se passer, c'est qu'on va donner sa fille en mariage.
L'abandon scolaire ralentit la croissance économique et entrave les efforts visant à réduire la pauvreté. Sans réaction rapide, prévient le rapport, cela pourrait entraîner une perte potentielle de revenus d'au moins 200 milliards de dollars.
Un sujet signé Igor Strauss. En République démocratique du Congo, c'est la guerre dans l'est du pays, mais aussi l'épidémie d'Ebola qui perturbe la scolarité. Ainsi, une semaine après la rentrée, plus de 1100 établissements restent fermés selon une compilation du mécanisme de coordination humanitaire de l'éducation RDC, piloté par l'UNICEF et Save the Children en lien avec les autorités congolaises. En Ukraine aussi, la guerre avec la Russie a perturbé la rentrée des classes avec des cours allégés quand ils ne sont pas purement et simplement interrompus à cause des alertes aériennes et des bombardements. C'est un petit peu plus compliqué encore dans les territoires occupés par Moscou qui tentent là-bas de gommer l'identité ukrainienne des élèves. Explication depuis Kiev avec notre correspondante Emmanuel Chaz.
Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles des territoires ukrainiens illégalement occupés par Moscou. On voit des soldats porter des piles de manuels scolaires. Ils confisquent puis détruisent les ouvrages pédagogiques ukrainiens. Depuis le 1er septembre, de nouveaux manuels d'histoire édités par le ministère de l'Éducation nationale russe sont distribués. Dans ces livres, Moscou réécrit l'histoire des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson selon le narratif russe. Le ministère de l'Éducation y dépeint une histoire unifiée de la Russie, un récit qui gomme les aspirations d'indépendance des peuples sous domination russe et dont l'apprentissage est obligatoire dans les lycées des territoires occupés. Cette stratégie de rééducation est dénoncée par Kiev qui rappelle que la Russie tente d'embrigader les enfants ukrainiens dès leur plus jeune âge en réécrivant leur cursus scolaire puis en les forçant à joindre des groupes parascolaires patriotiques pour les inciter, entre autres, à rejoindre l'armée russe et à prendre les armes contre leur pays natal. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
L'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky est en route pour le Canada, après s'être rendu en Norvège, où il a assisté mercredi aux obsèques du roi Harald. Il en a profité pour parler défense anti-aérienne et aide militaire avec les autorités norvégiennes. Une rencontre qui aurait pu ne jamais avoir lieu, selon le premier ministre norvégien, car il affirme que l'avion transportant Volodymyr Zelensky de la Moldavie vers Oslo a failli être touché par un drone lors du décollage. Il ne donne pas d'autres précisions sur l'incident que les autorités ukrainiennes, elles, semblent vouloir nuancer. Il s'agissait simplement d'une alerte en Moldavie après l'intrusion d'un drone russe dans son espace aérien, selon les propos d'une source au sein de la présidence ukrainienne, des propos recueillis par nos confrères de l'AFP. C'est de la légitime défense, dit le ministère iranien des Affaires étrangères. Il annonce que son pays a attaqué plus d'une dizaine de navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. Une représaille à l'attaque américaine de 5 pétroliers iraniens dans le Golfe, c'était mardi. Mais cette guerre avec l'Iran, elle s'arrêtera immédiatement après les élections de mi-mandat aux États-Unis, croit savoir Donald Trump. Pour lui, les Iraniens ne peuvent pas tenir plus longtemps. Pourtant, selon le Wall Street Journal, de hauts responsables à la Maison-Blanche, notamment le vice-président Jay Givens ou le secrétaire d'État Marco Rubio, auraient au contraire dit à Donald Trump que le conflit pourrait se prolonger jusqu'à la fin de sa présidence. Mais avant ça, je vous le disais, il y a les midterms, le 3 novembre, les élections de mi-mandat pour lesquelles les Républicains sont en mauvaise posture. Alors pour y remédier, Donald Trump mise sur l'argent. Il promet, je cite, un dividende de 5 000 $ pour chaque citoyen adulte des États-Unis. Une mesure qui semble évidemment extrêmement coûteuse, mais il ne dit pas comment il la financerait, précisant seulement que l'enveloppe serait à dépenser uniquement sur le sol américain. En Serbie, le vote, ce sera le 25 octobre pour des élections législatives anticipées. C'est la conséquence de la dissolution du Parlement, annoncée hier par le président Aleksandar Vučić, qui cède ainsi à l'une des revendications du mouvement de manifestation anti-gouvernementale, débuté après l'effondrement meurtrier de la gare de Novi Sad depuis 2 ans maintenant. Alors, est-ce que c'est vraiment une concession ou Vučić pense vraiment avoir une chance de l'emporter? On a posé la question à Florent Bieber, spécialiste des Balkans à l'université de Graz à Vienne.
Il semblerait qu'il a l'impression d'être capable d'obtenir une majorité encore une fois dans ces élections-là, et ça c'est la raison pour laquelle il a décidé maintenant pour cette date-là. Mais la plus grande question, c'est la liste des étudiants. Ils ont annoncé déjà il y a un an qu'ils vont avoir une liste électorale contre Vučić, mais on ne connaît pas encore les noms des candidats. Donc ça, c'est la liste qui a les meilleures possibilités de vraiment gagner, d'obtenir les plus de votes que la partie au pouvoir. Mais il ne faut pas oublier, Vučić contrôle toutes les institutions, il contrôle tous les grands médias dans le pays. Donc vraiment, il y a une dominance un peu pareil comme Orban a eu en Hongrie avant qu'il a perdu les élections en avril de cette année.
Des propos recueillis par Muriel Paradon. Au Japon, la coalition d'opposition à la première ministre Sanae Takaishi n'aura pas duré longtemps. L'alliance réformiste centriste a éclaté hier. Son chef a annoncé sa dissolution 8 mois seulement après sa formation. L'idée, c'était au départ de renforcer les forces d'opposition lors de l'élection à la Chambre basse face au Parti libéral-démocrate au pouvoir. Ça n'avait pas marché lors du scrutin en février dernier. La coalition n'avait remporté que 49 des 465 sièges mis en jeu, perdant même au passage plus d'une centaine de députés sortants. Guibourg de Lamotte est professeur en sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon.
Elle était formée, cette coalition, de deux partis, le parti bouddhiste et un parti de gauche. Et en fait, le rapprochement n'a jamais bien fonctionné, parce qu'il y avait des oppositions assez fortes au sein des différents courants. Il y a donc une forte division, de toute façon, de l'opposition, que cette coalition, en fait, n'a pas pu colmater et puis à laquelle elle n'a pas pu suppléer. Et c'est un parti qui donc s'était formé pour les élections à la Chambre basse, en prévision d'une très forte victoire de Madame Takaichi. Elle a remporté cette victoire écrasante à la Chambre basse, donc elle est toujours forte de cette majorité. Ce qui lui permet de faire passer des projets de loi comme celui par exemple sur la succession impériale. Mais à la Chambre haute, le Parti libéral-démocrate est le premier parti, mais il n'a pas de majorité en effet. C'est-à-dire que sur le total de 247 sièges, il en a 101.
Des propos recueillis par Mélissa Barra. Au moins 5 morts aux Philippines après l'incendie d'un ferry dans l'ouest du pays. Ça s'est passé près d'un site touristique de la province de Palawan. 5 corps sans vie retrouvés, je le disais, mais aussi 86 personnes toujours portées disparues. L'inquiétude est toujours grande quant au sort de notre confrère Moussa Kaka au Niger et elle se traduit dans un communiqué co-signé et publié lundi par Amnesty International et l'Organisation mondiale contre la torture. Les deux ONG interpellent les autorités nigériennes afin qu'elles localisent le journaliste disparu depuis le 31 août à Niamey et qu'elles donnent ces autorités des garanties sur sa santé à Moussa Kaka qui a disparu au surlendemain de la mutinerie du 29 août. Drissa Traoré, chargé de programme Sahel au sein de la FIDH.
À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur le lieu et les conditions de détention du journaliste Moussa Kaka. Ce qui est d'autant plus préoccupant quand on tient compte de la situation qui prévaut au Niger. Tout porte à croire qu'il est détenu au secret quelque part. Tout porte à croire que les événements intervenus le 29 août ne doivent pas être étrangers à sa disparition. Même si nous savons très bien que Moussa Kaka, c'est un journaliste chevronné et professionnel, il a toujours fait son travail et malgré cela, il a toujours été inquiété par les différents régimes qui se sont succédés au Niger. Malgré notre alerte, nous n'avons à ce stade aucun retour des autorités nigériennes, ce qui est préoccupant. C'est pourquoi nous profitons de ce micro pour réitérer notre appel à ces autorités à prendre toutes les mesures nécessaires afin de localiser Moussa Kaka et surtout d'établir les circonstances exactes de sa disparition et de garantir son intégrité physique et psychologique.
Drissa Traoré, chargé de programme Sahel au sein de la FIDH, il était interrogé par Frédéric Gara. En France, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Des jeunes filles filmées à leur insu à l'aide de lunettes caméra. C'est l'association e-enfance qui a lancé l'alerte. Elle qui propose un numéro d'urgence pour les moins de 25 ans qui sont victimes de cyberharcèlement. Et depuis le début de l'année, l'association a déjà reçu une vingtaine de signalements concernant ces lunettes connectées. Oriane Gendreau.
Des lunettes aux montures carrées, un peu épaisses, tout à fait ordinaires, mais qui peuvent filmer en continu et même diffuser en direct sans que l'on s'en rende compte. Un outil inquiétant qui peut créer du cyberharcèlement, d'après Véronique Béchu, présidente de e-enfance.
On a des adolescentes entre 15 et 18 ans qui dénoncent avoir découvert des contenus d'elles, indûment partagés sur les réseaux et donc indûment captés dans des situations de micro-trottoirs, mais qui ont une vocation qui est extrêmement marquée, c'est d'humilier la personne.
Et enfin, s'appelle les réseaux sociaux à supprimer tous les comptes de ces vidéastes. Marie Dubois, elle, travaille à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle demande à réglementer ces vidéastes.
Si vous êtes influenceur, vous allez du coup être soumis au respect des règles posées par le règlement général sur la protection des données. Donc vous allez devoir respecter les grands principes qu'il pose, à savoir avoir une base légale pour le traitement que vous mettez en œuvre, informer les personnes, permettre aux personnes d'exercer leurs droits, etc.
La CNIL travaille en ce moment avec le Comité européen de la protection des données sur un rapport sur ces lunettes connectées. Il sortira fin 2026.
Et puis un petit mot de football et un début canon pour le Paris Saint-Germain pour son premier match de phase de groupe en Ligue des Champions. Le double tenant du titre a écrasé le Slovan Bratislava hier soir, victoire 6-1. Liverpool a battu l'Atlético Madrid 2-1. Ce soir, Lens se déplace à Prague, 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on va rejoindre notre correspondant à Bruxelles pour parler avec lui de l'idée de réforme de la diplomatie européenne. Une idée qui fait son chemin à Bruxelles alors que les critiques se multiplient, notamment contre la chef de cette diplomatie européenne, Kaya Kallas. La romancière franco-camerounaise Emley Boom sera notre invitée culture. Elle qui publie son nouveau roman, ça s'appelle Nos vies sauvages. Elle va nous en parler. Et puis on parlera aussi du lien néfaste qu'il y a entre santé et fake news. Mais d'abord, direction la Suède, là-bas J-3 avant les élections législatives, ce sera dimanche. La campagne touche donc à sa fin, une campagne où l'immigration s'est imposée comme le sujet phare. Pourtant, il y a encore 10 ans, ce n'était pas vraiment un sujet. La Suède était même l'un des pays européens les plus ouverts sur la question. Eh bien, ce n'est plus le cas depuis 2022, depuis que Ulf Kristersson, le chef des modérés, un parti de centre-droit, est devenu Premier ministre. Il a pu compter sur le soutien parlementaire du SD, les démocrates de Suède, un parti d'extrême droite. Et les renvois de migrants se sont multipliés, augmentant de plus de 60%. Cette fois, pour le scrutin de dimanche, le SD est en deuxième position dans les intentions de vote et le parti d'extrême droite ne veut plus se contenter de soutenir seulement depuis l'hémicycle. Il veut entrer au gouvernement et pour y être invité en cas de victoire de la droite. Reportage à Stockholm d'Otilia Ferré.
Aucun être humain n'est illégal.
had a boy and a girl. She woke up a morning, felt alone in this world. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. She cried in the night, he brought her flowers in the daytime. She tried and she tried to forget the past and all her past crimes. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it.
Acheter un autre poste si ça coupe.
Ah, le poste est très bon. C'est vos émetteurs qui le sont pas.
Ah ben non, le poste est pas bon, parce que c'est pas l'émetteur qui doit faire que ton poste comprend, c'est le poste normalement qui doit comprendre.
Ah, écoute, avec certaines autres radios que la vôtre, ça marche très bien.
Ben ça veut dire que ton poste comprend les autres radios, mais qu'il ne comprend pas celle-ci.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Thank you. tena kosa usingizi siku kucha minadua. I send ya kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your